Marie Dauzet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate pénaliste. Les auditeurs d'RFI vous ont entendu défendre le cas des enfants français prisonniers dans les camps du nord-est syrien. Vous êtes également avocate de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Vous publiez aux éditions de l'Observatoire Éloge de la prescription, un essai dans lequel vous expliquez pourquoi la prescription est indispensable. Alors pourquoi est-ce qu'il est si important de ne pas attendre trop longtemps pour juger les faits ?
D'abord parce qu'on oublie que la prescription, c'est surtout un principe fondamental qui nous aide à lutter contre l'arbitraire. La preuve, elle n'est pas éternelle. La preuve, elle s'amenuise nécessairement, les éléments de preuve, au fur et à mesure du temps qui passe, s'amenuisent et sont rendus plus friables. À partir de là, si l'on décide de poursuivre éternellement quelqu'un, on va le poursuivre sur des éléments de preuve qui s'étiolent. Donc c'est d'abord la prescription, un principe fondamental qui nous aide à lutter contre des poursuites arbitraires. C'est un principe qui existe dans toutes les sociétés démocratiques et qu'il y a 2000 ans d'histoire.
Les progrès de la science permettent parfois de résoudre peut-être plus facilement une enquête des années plus tard. Est-ce que ça, c'est pas un argument qui justifie le fait qu'on puisse poursuivre plus tard ?
C'est un argument qui a justifié qu'on double les délais de la prescription de l'action publique. C'est-à-dire qu'on est passé pour les crimes de 10 à 20 ans pour les délits de 3 à 6 ans. C'est justement parce qu'on a voulu prendre en considération les progrès de la science et puis certains éléments comme l'amnésie traumatique pour ceux qui ont été victimes de violences sexuelles notamment ou de traumatismes dans l'enfance qu'on a décidé de doubler ou d'allonger les délais de prescription. Mais jusqu'à quand ? La difficulté, c'est que lorsqu'on se penche sur les textes et sur les dernières réformes, parce qu'on n'en finit pas, vous le savez, en droit pénal de réformer les réformes, lorsqu'on se penche sur ces dernières réformes, on constate qu'à l'échelle d'une vie d'homme, plus rien n'est prescriptible. On est vraiment dans une malhonnêteté intellectuelle qui, moi, me choque énormément. On a réformé la loi en justifiant cette réforme par le fait que le frère de Camille Kouchner, par exemple, ne pouvait pas déposer plainte. Ou que Vanessa Springora, eh bien, sa plainte serait prescrite s'agissant des allégations de violences sexuelles qu'elle a magnifiquement d'ailleurs décrites dans son livre. Mais enfin, ces personnes ont vécu des violences sexuelles à un moment où la loi n'est pas celle qui est appliquée aujourd'hui. C'est-à-dire que si elles avaient vécu la même chose aujourd'hui, elles pourraient déposer plainte jusqu'à 48 ans. Elles n'ont pas 48 ans lorsqu'elles dénoncent ces faits. Donc en réalité, on est en train de dire, voyez, il faut réformer la loi, puisque ces jeunes femmes ou ce jeune homme ne peuvent pas déposer plainte. Leurs allégations se heurtent à la prescription. Mais non, la loi aujourd'hui qui s'applique leur aurait permis de déposer plainte. Simplement, on confond deux choses. On confond les réformes qui sont appliquées s'agissant de la prescription et la non-rétroactivité de la loi pénale. Il est normal que s'agissant des faits qui ont été commis il y a 20 ou 30 ans, c'est la loi qui était applicable il y a 20 ou 30 ans qui s'applique, c'est tout. Donc en réalité, on est en train de transformer, mais comme souvent depuis 20 ans, la justice pénale en outil de communication politique et on fait croire, le législateur fait croire qu'il faut réparer ou amender ou réformer la loi pénale parce qu'elle ne leur permet pas de déposer plainte. Mais c'est pas vrai. Encore une fois, on oublie de faire œuvre de pédagogie.
Et c'est en lisant ce livre aussi que, j'allais dire, on comprend pourquoi parfois on entend qu'une enquête préliminaire est ouverte concernant des faits qui, de toute façon, sont prescrits.
Voilà, moi je dénonce cela. Je dénonce cela parce qu'en fait, on est en train de judiciariser le soupçon. On nous fait croire qu'aujourd'hui, on va ouvrir des enquêtes préliminaires pour vérifier que les faits sont prescrits. Alors, excusez-moi du peu, mais jusqu'alors, le procureur savait calculer. Les membres du parquet connaissaient à peu près leurs mathématiques et très rapidement savaient si oui ou non les faits étaient prescrits. Mais là, c'est pas ça. On va décider d'ouvrir des enquêtes préliminaires et donc d'auditionner des mises en cause, d'auditionner des témoins, d'auditionner des plaignants, tout en sachant que de toute façon, cette page judiciaire se fermera. Et tout en sachant surtout que le mis en cause ne rencontrera jamais, 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 jamais un tribunal ou un juge indépendant. Pire, on va clore cette procédure et classer sans suite cette procédure en indiquant les faits sont prescrits, on le savait déjà, mais s'ils ne l'étaient pas, les faits pourraient revêtir une qualification pénale. Mais on ne peut plus jamais se défendre de cela. Et ça, c'est la judiciarisation du soupçon, et ça, c'est extrêmement grave. Donc c'est ce que je dénonce dans mon livre. Encore une fois, moi, je crois que Il faut faire comprendre à la victime, et c'est drôle parce que plus j'écrivais ce livre, plus je me disais, mais je suis en train d'écrire pour les victimes. Je crois qu'il y a une instrumentalisation des victimes à qui on fait croire que le judiciaire est là pour les réparer. Et que tant que celui ou celle qui leur a fait du mal n'est pas puni, n'est pas poursuivi, n'est pas incarcéré, eh bien, ils n'iront pas mieux. C'est faux. Le deuil ne passe pas nécessairement par la case judiciaire. Et la réparation, elle se fait dans l'entre-soi. Elle se fait dans la sphère de l'intime. Elle ne se fait pas devant les tribunaux. Moi, je ne peux pas supporter que la libération de la parole, on considère que c'est soit dans les journaux et donc publiquement, soit dans la sphère du judiciaire, même si c'est prescrit. Non ! Il faut développer des mécanismes de justice restaurative, il faut donner plus d'argent à des psychologues, à des associations de soutien des victimes, mais pas des associations qui les poussent à déposer plainte, même quand c'est prescrit, en leur expliquant que la justice, si elle conclut à la prescription, elle n'est pas patriarcale. C'est pas ça. C'est pas ça, faire œuvre de justice.
Vous évoquez également le cas des militants italiens d'extrême gauche, reconnus en France au nom de la doctrine Mitterrand en 85, et qui leur permettait de rester sur le sol français à condition d'avoir rompu avec le terrorisme. Plusieurs d'entre eux sont menacés d'extradition en ce moment.
C'est profondément choquant. C'est-à-dire que la France est en train de prêter main forte à l'Italie pour que des vieillards de 70, 80 ans terminent leur jour dans des prisons italiennes de haute sécurité. 40 ans après avoir été condamnés, et souvent en leur absence. Mais je veux dire, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire là? Vous savez, on n'est plus dans la culture de la justice là, on est dans celle du bannissement. On est dans le ressort de la vengeance. Quel est le sens de l'exécution d'une peine 40 ans après un jugement? Celui qui a commis un fait doit-il voir sa peine exécutée 40 ans plus tard, alors même que l'Italie et la France, pas que la France, que l'Italie et la France ont accepté la doctrine Mitterrand. La doctrine Mitterrand, elle n'a pas été construite et fabriquée par un seul homme, François Mitterrand. Elle a été construite et fabriquée avec l'Italie, qui était tout à fait d'accord à l'époque. Les prisons étaient pleines, et puis on avait considéré que l'important, c'était pas de savoir comment on était rentré dans le terrorisme, mais comment on en sortait. Ces personnes sont pères, grands-pères. Ils ont travaillé en France, certains sont infirmiers, certains sont aides à domicile, ils sont en retraite, ils ont des petits-enfants, leurs familles sont ici. Et on va les accompagner dans des prisons italiennes pour purger des peines qui vont de 20-30 à perpétuité. Au nom de quoi? Au nom des victimes italiennes? Mais moi, je voudrais juste savoir qu'est-ce qu'on fait des victimes des repentis. Les repentis qui finalement ont passé quelques mois en prison en Italie et qui sont sortis très vite, parfois sous des fausses identités, parce qu'ils avaient dénoncé 1, 2, 5, 10, 20 camarades qui avaient du sang sur les mains. Est-ce qu'on se préoccupe de leurs victimes à elles? Là encore, on est dans des raisonnements qui font appel à la vengeance, pas du tout à la justice. Je trouve ça désespérant et très inquiétant. De surcroît qu'un garde des Sceaux comme Éric Dupond-Moretti, dont je connaissais si bien la prise d'opposition sur ce sujet quand il était avocat, se disent fiers d'amener ces vieillards dans des prisons dans lesquelles ils vont mourir. Enfin, c'est quand même profondément choquant.
Marie Dosé, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Éloge de la prescription, paru aux éditions de l'Observatoire.